Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité est Bruno Alioua, il est dermatologue et chargé de cours d'histoire de la médecine à l'Université Paris 4. Il est ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine et membre de la Société française d'histoire de la médecine. Il vient de sortir un nouveau livre qui s'intitule « Joseph Mengele, médecin et bourreau » et c'est un livre qui est paru aux éditions Perrin. Bruno Alioua, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec ce livre, donc c'est un livre qui est tout à fait passionnant. Donc finalement, la question centrale de ce livre, vous la posez hein, vous-même, c'est comment cet homme, Joseph Mengele, est-il arrivé à rompre le serment d'Hippocrate d'une manière aussi monstrueuse? Parce que finalement, il avait un avenir prometteur et visiblement, il a perverti ses connaissances médicales. Comment oui, il en est arrivé là?
Ben, j'ai essayé de parler d'un homme qui est médecin, et quand on est médecin, le but d'un médecin, c'est d'aider, de soigner, d'apporter, de soulager, d'aider son prochain. Et vous avez une personne qui est Joseph Mengele, qui est issue d'une famille très riche. Ses parents, son père, c'est un industriel, il a une usine de 400 personnes, une grosse usine, dans une petite ville qui s'appelle Gainsbourg, en Allemagne. Et normalement, le petit Joseph Mengele aurait dû succéder à son père, mais il veut pas succéder, il veut devenir médecin, par amour de la médecine, mais surtout parce qu'il dit « je veux qu'un jour mon nom soit dans le dictionnaire, que je sois un grand scientifique ». Et donc, il va en fait faire ses études de médecine, rien ne prédisposait à ce qu'il devienne un monstre. Il part à la guerre en 40, il fait la campagne de Russie, il est probablement un petit peu blessé. Et là, à son retour, on l'affecte au camp d'Auschwitz, où là, il va devenir le plus grand serial killer de tous les temps.
Alors, justement, mais avant même, justement, d'être affecté à Auschwitz, est-ce qu'il a déjà un passé de nazi, finalement? Qu'est-ce qui le pousse, justement, qu'est-ce qui le pousse à intégrer le parti nazi?
En fait, c'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui saisit l'opportunité de se retrouver au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Il fait ses études de médecine, il est pour une grande Allemagne, une Allemagne forte, et finalement il est enthousiasmé par le parti nazi, mais pas tout de suite. Ce n'est qu'en 1938 qu'il va devenir membre du parti nazi, donc relativement tardivement, et là en fait il va adhérer à l'idéologie nationale-socialiste, c'est-à-dire qu'il considère que le monde se divise d'un côté entre ceux dont la vie mérite d'être vécue, ceux qui sont indignes de vivre, c'est-à-dire les juifs, les handicapés, les tziganes, bref, tous ceux que le régime nazi déteste, et puis de l'autre côté, ceux pour qui l'avenir doit être radieux, c'est-à-dire autrement dit, les ariens. Et donc lui, bah, il adhère totalement à cette idée qu'il y a des gens dont la vie ne mérite pas est indigne d'être vécu, et donc il considère que finalement les juifs sont un peu ne méritent pas de vivre sur terre, et donc mais il n'est pas un acteur total de l'extermination dès le début. Ce n'est que dans un deuxième temps, quand il sera affecté à Auschwitz, qu'il va devenir en fait le criminel nazi.
Alors est-ce qu'il était proche de Hitler, je veux dire, est-ce qu'il avait rencontré Hitler?
Non, pas du tout. C'est vraiment une personne moyenne de la classe. C'est une personne qui n'a pas du tout, qui ne fait pas partie du cercle des proches d'Hitler. Hein. C'est vraiment un Allemand moyen, mais qui, par la situation de la guerre, par la situation dans laquelle il se retrouve, va devenir en fait un nazi.
Alors, docteur Alioua, en quoi consistaient les expériences de Mengele au camp d'Auschwitz?
En fait, ce qui se passe, c'est que Mengele, qui est médecin, veut faire des travaux scientifiques pour pouvoir écrire des articles scientifiques, pour pouvoir devenir un médecin reconnu et, après la guerre, obtenir des postes. Et donc, en fait, il va faire des expériences, notamment chez des jumeaux, il va étudier les jumeaux. Parce qu'il faut savoir que chaque jour, ben, vous avez des convois qui arrivent de l'Europe entière, avec chacun en moyenne entre Il y a des jours où il y a presque 9-10 000 personnes qui arrivent dans la journée, donc il y a beaucoup de jumeaux. Il sélectionne les jumeaux à l'arrivée de façon à pouvoir faire sur ces jumeaux des expériences à la fois de mesure, de comparaison. Et puis, il fait également des études sur les personnes qui ont des yeux verts et bleus et marrons. Vous savez, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle une échothérochromie iridienne, c'est-à-dire en fait des yeux verrons. Il étudie comme ça les familles. Il étudie également certaines maladies. Mais en fait, c'est pas lui-même qui étudie, c'est qu'il utilise des déportés juifs, des médecins déportés, pour faire ses travaux à sa place. Mais en fait, il utilise les milliers de personnes qui sont dans le camp, enfin, pour sélectionner parmi ces milliers de personnes qui sont dans le camp des sujets d'expérimentation.
Finalement, c'est davantage un tortionnaire qu'un médecin.
Oui, il n'a rien de médecin. En fait, son rôle, il est très important parce que, en fait, à Auschwitz, vous avez 4 à 5 000 gardiens, mais vous avez 8 médecins en permanence. Et ces 8 médecins jouent un rôle fondamental dans le camp d'Auschwitz en assurant, en fait, l'arrivée, le bon déroulement de l'arrivée des trains. C'est-à-dire, quand un train arrive, c'est un médecin nazi, un médecin SS qui fait la sélection entre, d'un côté, ceux qui rentrent dans le camp pour travailler et de l'autre côté, ceux qui sont envoyés directement à la chambre à gaz. En général, 80% des convois sont envoyés à la chambre à gaz, essentiellement des enfants, des femmes enceintes ou des personnes âgées. Et donc, lui, Mengele, c'est celui que la première personne qui arrive à Auschwitz voit et c'est lui qui dirige vers les chambres à gaz. Les personnes. Et puis surtout, une fois qu'il est dans le camp, c'est celui qui examine de temps en temps les malades dans les infirmeries ou qui fait de façon à envoyer à la chambre à gaz les déportés qu'il juge incapables de travailler.
Finalement, ces victimes, c'est essentiellement des juifs et des tziganes, c'est ça en gros?
Oui, c'est essentiellement. C'est-à-dire que c'est pratiquement que des juifs et des tziganes. Il n'a aucune pitié, et cela même dans les derniers jours de la guerre, alors que tout le monde sait que la guerre est perdue pour les Allemands.
Alors, Bruno, comment expliquer justement qu'il a pu passer au travers des mailles du filet, si on peut dire? Il n'a jamais été jugé. Exactement, qu'est-ce qui se passe après la guerre? Il arrive à s'échapper?
Après la guerre, il se cache, hein, il utilise une fausse identité, mais il est aidé par sa famille, qui est très riche, hein, j'ai dit, hein, son père, vous avez une ville qui s'appelle Gainsbourg, en Allemagne, dans laquelle il y a une usine, l'usine Mengele, qui fabrique du matériel agricole, hein, c'est-à-dire des tracteurs, des pelles, enfin plein de choses qu'on utilise dans le cadre d'une ferme. Et en fait, cette famille, c'est le premier employeur de la ville qui va avoir presque 1200 employés. C'est-à-dire que toute la ville travaille pour l'entreprise Mengele. Donc c'est une entreprise florissante. Et le père et ses frères vont faire en sorte de lui donner de l'argent, ce qui lui permet en fait d'abord de se cacher dans un premier temps. Il va se cacher, puis après il va prendre le bateau, il va aller en Argentine. Où là, il va arriver en Argentine, il va reprendre son nom de Mengele, c'est-à-dire qu'il apparaît dans le bottin, il fréquente la société allemande sur place, il est tout à fait, tout le monde est au courant qu'il est sur place, personne ne le dénonce. Et en fait, sur place, il joue un peu le rôle de représentant pour la firme familiale, probablement en vendant en fait le matériel que produit ses parents, son père, en Allemagne, dans une usine.
Et comment se fait-il que le Mossad n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus?
Alors, c'est une des questions que j'expose dans le livre, hein, c'est-à-dire que je montre la traque de cette personne, c'est-à-dire que, en fait, il faudra attendre la fin des années 50 pour que l'État d'Israël décide en fait avec d'abord Eichmann, d'arrêter les criminels nazis, puis après de les pourchasser un petit peu partout. Mais tout le monde est à la trace de Mengele jusqu'à la fin de sa vie. Il va être en fait pourchassé, mais jamais attrapé. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde s'attend à ce qu'il se cache dans un endroit où, luxueux, mais pas du tout. Lui, il a tellement peur de se faire avoir qu'il va se cacher dans une espèce de bidonville à la fin de sa vie, à Sao Paulo, où il vit dans des conditions... vraiment, c'est dans un bidonville le plus sordide. Et en fait, il va comme ça échapper à la mort. Et en fait, en 1979, il va se baigner à la plage avec une famille allemande. Et là, il va avoir une crise cardiaque et il se noie dans l'Atlantique. c'est la fin du docteur Mengele. Alors, ce qui est terrible dans tout ça, c'est que quand il meurt en 1979, la famille est tenue très vite au courant, mais elle ne déclare pas la mort parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils veulent garder encore l'anonymat, que personne ne pointe du doigt leur rôle, et donc il faudra attendre 1985, c'est-à-dire 6 ans après sa mort, pour qu'on découvre enfin la vraie vérité qui était mort en fait de noyade.
On retrouve sa dépouille, je crois, entre Vassin, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. En fait, il avait été enterré dans un cimetière sous un faux nom, et finalement, il y a une indiscrétion. Quelqu'un écrit un texte dont le courrier est lu, et là, aussitôt, la police fait une descente dans la même famille Mengele, et on s'aperçoit que, en fait, il a été enterré sous un faux nom. Et là, on découvre le cadavre, et quand on découvre le cadavre, en fait, on étudie sa dentition, et on va voir un dentiste qui avait des radiographies de la bouche de Mengele pour voir, et on fait en fait l'examen, et on voit que finalement c'était bien le personnage de Mengele, voilà. Et en fait, il faudra attendre encore quelques années pour faire une extraction d'ADN, vous savez, pour prouver en fait que c'était bien Mengele qui était dans le tombeau.
Alors aujourd'hui, on en a la certitude. Où sont les restes de Mengele aujourd'hui?
Alors c'est assez intéressant, c'est que en fait encore la famille n'a même pas voulu reprendre le corps, et en fait le corps, bah, il s'est retrouvé à la faculté de médecine de Sao Paulo, où il est étudié par les étudiants, et son crâne en fait se trouve au département d'anatomie de la faculté de médecine de Sao Paulo. C'est-à-dire qu'en fait le criminel qui a été finalement le plus grand serial killer de tout le temps, hein, c'est-à-dire qui était vraiment le tortionnaire nazi, bah, finalement aujourd'hui, bah, il sert son corps. Ben, sert en particulier à la science en permettant à des étudiants d'étudier l'anatomie.
Le fils de Mengele n'a jamais réclamé la dépouille de son père?
Non. Le fils n'a pas réclamé. Le fils, en fait partie d'une génération. Enfin, il a pratiquement pas connu son père puisqu'il est né en 1944. Son père l'a vu naître, mais à l'âge de la dernière fois que le père l'a vu, c'est à l'âge de 6 mois. Et en fait, c'est né qu'à l'âge de 16 ans qu'il apprend que son père est Mengele. C'est quelqu'un qui comprend pas, qui est terriblement perturbé de savoir que son père est un criminel. Et en 1978, il prend l'avion, il va en Brésil, sous un faux nom, il va voir son père et il essaye d'avoir une discussion avec lui pour lui demander « Mais pourquoi tu as fait tous ces crimes ?» Et le père, à aucun moment, ne veut s'exprimer. Donc, et en fait, jusqu'à la fin, il a jamais regretté ses actes. C'est ça qui est terrible.
Oui, mais comme la plupart des nazis, hein, qui n'ont strictement aucun remords. Et sinon, si on a un peu de conscience morale, on ferait pas des actes aussi effrayants ou aussi catastrophiques. Mais alors, ce qui est intéressant de voir finalement, c'est que le fils ne s'est jamais exprimé. On n'a jamais pu le rencontrer, l'interviewer.
Non, il refuse les interviews. Il a dit un jour qu'il voulait aller, il avait peur d'aller en Israël pour pas qu'on puisse le juger. Bon, après, lui le dit, il dit « Je ne suis pas responsable des actes de mon père », mais d'un autre côté, là où on peut avoir quand même une certaine rancune vis-à-vis du fils, c'est qu'il a été au courant de la mort de son père, il aurait pu le dire, mais il a laissé tout le monde dans le secret. Enfin, il a jamais avoué que son père était mort. Il faudra attendre 6 ans, hein, et pendant ces 6 ans, entre le moment où il est mort et le moment où on a découvert le cadavre, vous allez avoir Simon Wiesenthal, les Klarsfeld, tout le monde va rechercher dans le monde entier le Mengele, mais alors que si le fils avait dit voilà, le père est mort, cet homme se trouve à tel endroit, ça aurait évité beaucoup d'énergie, beaucoup de perte d'énergie, beaucoup de soucis, quoi.
Docteur Bruno Alioua, alors nous arrivons au terme de cet entretien. Alors je rappelle le titre de votre livre, Joseph Mengele, médecin et bourreau, et c'est un livre qui est paru aux éditions Perrin. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Bruno Alioua, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.